Bonjour à tous, vous écoutez les Pipelettes.
Au micro, Miyako, Louise et moi Laure. Aujourd'hui, nous allons vous raconter trois événements qui se sont déroulés un 27 mai.
Miyako vous parlera de la visite de Barack Obama au Japon en 2016. Laure vous présentera Françoise Athénaïs de Montespan, décédée en 1707. Et moi, Louise, je vous parlerai d'un invité mystère.
Vous avez bien noté ? Les Pipelettes, c'est dans un instant.
Commençons avec Miyako, qui nous raconte la visite de Barack Obama au Japon.
Le 27 mai 2016, pour la première fois, un président américain, Barack Obama, se rend à Hiroshima pour visiter le parc du Mémorial de la Paix. Il rencontre les Hibakusha. Ce sont des personnes exposées aux bombes atomiques lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1945, et pour arrêter la guerre, les Américains bombardent Hiroshima et Nagasaki le 6 et le 9 août. Ces deux villes sont victimes du feu nucléaire et provoquent la mort de dizaines de milliers de personnes. Le président Barack Obama a renouvelé, vendredi 27 mai 2016, son engagement à œuvrer à un monde débarrassé de l'arme nucléaire. Accueilli par le Premier ministre Shinzo Abe, Barack Obama avait d'abord visité le musée du Mémorial pour la Paix, où sont présentés, de manière parfois horrible, les effets du bombardement atomique sur les êtres humains. Après s'être recueilli quelques instants devant le monument de la paix, le président américain a déposé une couronne de fleurs blanches. Suite à son allocution, il s'est entretenu avec trois survivants très émus. Plus que des excuses, la majorité des Hibakusha souhaitent que le monde reconnaisse leur souffrance. Les Japonais ont longtemps eu un ressentiment à l'égard des Américains. Un geste de regret était attendu de leur part. À présent, ces personnes victimes de l'arme nucléaire s'étiennent peu à peu. Et avec elles, la mémoire vive de ce qu'elles ont vécu. Pour les plus jeunes, le bombardement relève désormais de l'histoire. Le peu de temps qui reste pour écouter les victimes de l'un des plus grands drames du XXe siècle fut sans doute une des raisons de la décision de Barack Obama de se rendre à Hiroshima.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe.
À toi, Laure, de nous parler de cette fameuse Madame de Montespan.
Merci, Louise. Françoise Athénaïs de Montespan est née le 5 octobre 1640 et morte le 27 mai 1707 à 66 ans. Elle est la fille de Gabriel de Rochechouart, prince de Tonnet-Charente et duc de Mortemart. Elle va épouser à 23 ans le marquis de Montespan, puis séduire le roi Louis XIV pour devenir sa maîtresse en 1667 et ensuite sa favorite. Mais comment en est-elle arrivée là ? Françoise Athénaïs de Montespan va arriver à la cour grâce à Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Sa beauté éblouissante et son très célèbre esprit Mortemart, qui caractérise sa famille, sont très redoutés des courtisans, et c'est grâce à ces deux dons qu'elle va prendre la place de Mademoiselle de Lavallière et devenir la favorite officielle de Louis XIV. Louis XIV va donc lui mettre en place un appartement contigu au sien, avec une entrée personnelle. Ensemble, ils auront 7 enfants, dont l'éducation est confiée à la veuve Scarron, qui sera la future favorite du roi. 6 d'entre eux sont légitimés à partir de 1673. Son goût prononcé pour le luxe et les arts va lui faire mettre sous sa protection beaucoup d'artistes, comme Molière ou La Fontaine, et elle va ainsi s'imposer dans la vie du château. Saint-Simon écrit même « Son cercle devient le centre de la cour, des plaisirs, de la fortune, de l'espérance et de la terreur des ministres et des généraux d'armée ». Après 13 ans de faveur, elle va peiner à s'opposer à ses rivales et lasser le roi avec ses fréquentes sautes d'humeur. Elle est ainsi évincée par Madame de Maintenon en 1680. Et en 1691, elle quitte définitivement Versailles car elle a été compromise dans une affaire de poison et se réfugie donc dans le couvent de Saint-Joseph où elle finit sa vie pour mourir le 27 mai 1707. Et cette même année, Scarlatti composait Mithridate et Eupatorée. Terminons avec Louise qui nous présente un personnage bien singulier.
Il est majestueux, il est beau. C'est une star de la télévision et du cinéma californien. Pendant 27 ans, c'était le plus grand au monde. Il se tient fier, debout, sur ses deux belles jambes bronzées, au soleil ou dans le brouillard et le vent. Son père, Joseph Strauss, était un architecte et un poète et il lui a transmis la grâce et la technologie. Il enjambe l'abbé comme on enjambe une flaque d'eau. Son squelette d'acier doré s'étire sur 2700 mètres de long, 227 mètres au-dessus des vagues. Il est un symbole, une des merveilles du monde moderne, une porte vers l'Amérique ou le Pacifique. C'est le Golden Gate Bridge de San Francisco et aujourd'hui, il a 85 ans. Écoutons San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair de Scott McKenzie, sorti en 1967. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentlemen.
Les filles, faut y aller.
Oui, mais ne vous inquiétez pas, car nous serons bientôt de retour pour une prochaine émission.
Non, Laure, c'est notre dernière.
Oups, pardon.
Eh oui, c'était notre dernière de l'année.
En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur www.radiolfb.net.
Abonnez-vous, laissez des commentaires et téléchargez notre programme.
Nous vous laissons avec Love Letters par Metronomy.
Au revoir, bon week-end et bon anniversaire, Sophie.